Salut à tous et bienvenue dans les guidons de l'info. Tous les mercredis soirs, on se retrouve en direct de 19 à 20h et on va parler moto ce soir. Et comme je vous l'avais promis, ça va être une soirée enduro. Et je remercie déjà tout de suite nos invités d'être avec nous. Alors nous avons ce soir avec nous Dominique, bonsoir à toi.
Bonsoir.
Et Franck.
Bonsoir.
Si j'ai pas oublié ton prénom.
Oui, c'est ça.
Deux enduristes qui nous vont nous faire profiter un petit peu de leur passion tout à l'heure. Bien entendu, l'équipe est au complet avec The Pat.
Bonsoir tout le monde.
Qui va nous faire un bond dans l'histoire.
Bah, puisqu'on reçoit des enduristes, on va parler un peu des brels d'enduro. Ouais. Comme ça sent un peu le cimetière des éléphants, tu sais, par rapport au nombre de marques qui ont existé. Ouais, ouais. Donc voilà, on va
Ça, c'est un moto en général, quoi.
Alors, on fera un petit clin d'œil aussi avec, en parlant des nouvelles de celle à venir. Il y a une petite française qui arrive là, quand même.
Oui, enfin bon, je me méfie des motos françaises.
Une moto française qui arrive.
Philippe, tu viens avec quoi? Les mains dans les poches ou t'as des choses à nous raconter tout à l'heure?
Non, je vais parler d'un site internet sur un concepteur de motos virtuelles qui a réussi à les faire fabriquer.
Il a réussi à les faire fabriquer celui-là. Oui. Il a fait fort.
C'est encore plus délirant.
Salut Dao.
Salut à toutes et à tous.
Oui. Mais encore.
Les mains, tu veux.
Le programme de
dans
ce
les
soir.
Poches. Non. J'ai des nouvelles un peu variées. Sécurité, GP, et puis Superbike aussi.
Et grand GP, Grand Prix pour ceux qui n'ont pas bien compris. Et on va commencer.
Une mission de moto quand même.
Et toi, t'es venu les mains dans les poches alors donc.
Mais non, moi j'ai plein de choses à raconter. Moi, je vais déjà participer à cette rubrique numéro quand même. Il y a plein de choses à dire. Un petit brin d'histoire et puis toujours mon habituel humour.
Quelle tristesse.
Dans l'émission. On va commencer tout de suite cette émission, comme d'habitude, par un billet d'humeur. Alors, un billet d'humeur à l'impro, total ce soir, The Pat.
Ouais, bah oui, puisqu'on m'a dit en arrivant à 58, c'est moi qui faisais le billet d'humeur. Donc, non, c'est un truc tout bête. Hein, c'est ce matin, c'est la une de la Dépêche. Alors, je sais pas si vous buvez le café dans des bistrots toulousains.
Et que vous lisez en plus la Dépêche.
Bah, c'est le seul endroit où tu la lis normalement. Enfin, c'est rare, les gens abonnés.
Aux toilettes.
Ah oui, peut-être.
J'ai coiffeur des fois.
Et donc, en première page, il y avait « Les Français en ont ras-le-bol des radars ».
Ah bah tiens.
C'est vrai, hein,
ça nous manquait.
Et en fait, le problème, c'est que il y a des médiateurs, et ben, c'est le sujet dont tu allais parler. C'est dans quoi que tu as trouvé ça, toi, dans 20 minutes?
Partout. Ouais, il y avait ça dans Le Monde, il y avait ça.
Filon, hein, de toute façon, il n'y a pas de tortillé.
Ils n'ont pas grand-chose à raconter, donc ils notent le sujet.
Donc tu as des médiateurs qui sont nommés parce qu'il y a beaucoup d'amendes qui sont contestées. Et surtout, le problème, c'est que les gens reçoivent les amendes directement avec les pénalités. Non pas parce qu'ils n'ont pas payé au début, mais c'est parce qu'ils sont tellement à la bourre qu'en fait, quand ils les envoient, c'est déjà trop tard. Ah oui. Du coup, tu te retrouves avec la pénalité d'office.
C'est sympa. C'est toujours plaisir.
C'est toujours sympa, ouais. Donc voilà, ils sont obligés de nommer des médiateurs. Il y a quand même pas mal d'amendes qui passent à la trappe. Enfin, pas mal, c'est de l'ordre de 25%.
C'est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui fait travailler quand même des fonctionnaires à faire que ça.
Il y a un problème, c'est que tu as des gens qui contestent, qui en demandant la photographie, et que la photo n'arrive jamais. Ce qui apparemment pose aussi un autre problème.
Parce que la plupart des photos, faut savoir, sont non valides. Faut quand même le savoir. On peut pas reconnaître qui que ce soit dessus. Et logiquement, dans ces cas-là, comme c'est automatisé, mais tu recevras le PV. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans ce cadre-là, si toi tu demandes la photo et que tu peux pas te reconnaître, ou tu peux reconnaître personne sur la photo, ou qu'il y a un autre véhicule qui passe en même temps que toi, faut le savoir. À ce moment-là, le PV n'est pas valide. Et tu l'as envoyé quand même, parce que la machine, elle cherche pas à comprendre, elle réfléchit pas. Mais si tu regardes réellement, ça marche pas. Légalement, ça peut pas marcher.
Il faudrait demander la photo à chaque fois.
Donc, il faut demander la photo à chaque fois. C'est systématique. Demander la photo.
Tu la reçois pas.
Mais s'ils peuvent pas te l'envoyer, ils sont obligés de te rendre tes points et l'amende va être annulée aussi.
Ouais, mais sauf que tu l'as payé déjà. Enfin, tu l'as déjà payé.
T'es obligé de payer. Voilà. Alors, le système automatique, t'es obligé de payer pour pouvoir voir. Mais, tu vas payer, tu seras remboursé.
Heureusement qu'on a tous des fausses plaques. Et sinon.
Non, ça c'est pas bien.
Non, c'est mal.
Bah, c'est bad.
Et donc voilà, quoi. Donc, c'était ça, mon petit billet d'humeur. Je me suis dit, c'est la Dépêche, ils en parlent juste avant les élections. Ça, c'est le truc qui énerve bien. Donc, c'est bien. J'ai trouvé ça plutôt sympa.
Alors, comme ils sont tous en train de nous faire des promesses, là, comme tous les Français en ont marre des radars, c'est lequel qui a promis qu'il n'y en aurait plus?
Sarkozy peut-être,
non? Sarkozy, c'est lui qui les a installés, donc il va peut-être nous expliquer comment il va faire pour les enlever.
Puis il voudrait pas se faire.
Parce que alors là, si tu veux, côté promesse mensongère, bon là on est sûr, là, hein. Avant on savait qu'il nous prenait pour des cons, mais là ça va se voir, quoi.
Ouais.
C'est sûr, les gens vont s'en rendre compte. Hein.
Non, puis en plus c'est chiant de s'engueuler avec son beau-frère et tout, se fait des histoires de famille.
Hein, ah bon?
Ah oui, c'est un peu lui qui fait l'entretien des radars.
Ah.
L'entreprise qui gère les radars, c'est un peu de la famille à Sarkozy.
Et oui, c'est comme ça qu'ils font pour être élus, sa femme.
Eh ben oui. Donc, je pense pas qu'il y ait un seul qui l'ait aussi, peut-être dans les petits groupes obscurs, je sais pas.
Très obscur. Peut-être chasse, pêche et tradition. Je peux regarder.
Je suis même pas sûr.
Si, si, parce qu'ils sont vraiment pour le terrien. Je vous jure que les radars, ils te les font sauter.
Et les ballons et tout.
Oui, oui.
Fin de la page billet d'humeur. Merci Philippe.
Désolé.
De tous tes commentaires. Désolé, comme d'habitude. Et on va passer tout de suite à l'agenda, parce qu'il y a plein de choses à dire concernant l'agenda. Et pour ceux qui ont aimé la bourse d'échange qui a eu lieu le week-end dernier, c'était à Blagnac, vous pouvez remettre ça en allant sur la prochaine bourse d'échange qui aura lieu à Sesquières. Ce sera le 17 et 18 mars prochain. 22e bourse d'échange de moto ancienne organisée par le Cercle T. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, c'est le 05 61 74 1568. Mais dans l'agenda, il y a d'autres choses qui se passent d'intéressant. Vous en avez pris en note, non? Championnat de France d'enduro. Plusieurs dates dans l'année. Vous en reparlera dans d'autres.
Trois?
Oui.
Oui, lesquels?
Ouf, il y a Nogent-sur-Marne, je crois.
Nogent-sur-Marne, c'est pas la porte à côté. Hein, putain. Ouais.
Il y en a peut-être une quatrième à Mende aussi, ils ont annoncé, mais c'est pas encore sûr et certain.
Ouais, après, il y a les classiques. Quoi.
Ouais.
Et après, le championnat de France en 5 étapes, on va commencer en avril, je crois, le 15 avril, à Mossiac.
Oui.
Et on va suivre en mai à Nuit-Saint-Georges, en juin à Bourganeuf, en septembre à Mende, et on finit en octobre à Corté. Et comme l'agenda, c'est tous les mercredis dans les émissions de radio, et on vous en reparlera plus en détail. Tiens, vous vous souvenez, on avait parlé dans une émission précédente qu'il y allait avoir une première, qu'il y a eu maintenant une première en France. C'est la première de l'enduro indoor qui a eu lieu à Lyon. Apparemment, il y a eu
du monde.
Il y a eu du monde. Ça a été un beau succès avec, bien sûr, pas mal de champions. Si je vous parle de Desprez, Cyril Desprez, tout le monde connaît, bien sûr.
Non, Desprez.
Desprez, Desprez, comme tu veux.
Parce que Desprez...
J'ai perdu mes notes.
Ah, après ou de loin.
Quelle organisation?
Et l'autre, 12 000 spectateurs.
5 000.
Sur le week-end, sur le salon, sur le quad indoor et sur l'enduro, je crois que c'était.
C'était à l'occasion effectivement du salon du deux roues, avec deux classements, des classements club classique et des classements final élite. Et dans le groupe élite, Cyril Desprez, c'est comme ça qu'il faut le dire.
Oui, c'est Desprez. Oui.
Et il n'est pas arrivé le premier.
C'est pas grave, mais cela est un. Les auditeurs le reconnaîtront peut-être.
Mais ils étaient pas loin de près.
Mais en tout cas, apparemment, ils ont mis en place quelque chose d'assez physique, d'assez intéressant, avec du passage de rivière, avec des rondins, avec pas mal de.
C'est la limite du trial, quoi. Est-ce que tu nous racontes là,
quelque part, est-ce que le trial et l'enduro sont pas loin d'être un petit peu de la même famille, hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense, oui. J'aurais associé ça, moi, en fait, entre de l'escalade sur montagne naturelle et de l'escalade en salle, en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup de parties qui sont plus faisables au niveau trail indoor, par exemple, où tu vas franchir des escaliers,
des obstacles,
ouais. Des obstacles
divers et variés,
pas naturels. Alors qu'en enduro, tu franchis pas d'obstacles.
Le trial, c'est dissocié à l'extérieur. Quoi.
Ouais. Oui, bien sûr.
Ils ont tous une racine commune, c'est le scrambler. Quoi. Mais après, t'as le cross, t'as l'enduro, puis le trial, ils ont chacun choisi leur voie. Chacun sa route.
Tout est parti de là. Hein.
Ouais, c'est à part du scrambler.
Phénoménal, l'enduro indoor, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça permet au grand public qui n'a pas accès dans la nature de faire découvrir notre discipline. Quoi,
et puis tu vois, j'imagine, quasiment tout le tracé en indoor, voilà, dans la nature, faut commencer
bien
à courir.
Assis, au chaud, la barquette de frites.
Au chaud.
Et la saucisse.
Avec l'odeur des gaz.
Et donc.
C'est ça la fumée, je pensais que ça venait des.
Leur moto ne fume pas.
L'avantage, c'est que tu as l'huile de temps à portée de main, si tu veux, pour les frites. Donc
je sais pas si on a du roux, il y a encore du de temps.
La seule chose qui est vraiment embêtante, c'est le bruit. Ça fait énormément de bruit en salle. Et les speakers au micro, tu sors de là.
Ils souffrent. Et plus de gorge.
Ouais, tu es assez.
Surtout si on va en avoir un
à Barcelone.
Barcelone.
Pourquoi que si. C'est quoi Barcelone?
C'est très bien, la seule différence, c'est qu'ils parlent
espagnol, quoi.
Oui, en plus. Et c'est assez logique, ouais, jusque-là.
Et ils sont
rien. Ah, oui.
C'est très espagnol.
Ce donc, ouais. Ils couvrent même le bruit des moteurs. Ouais.
Ah oui.
Sinon, bon, c'est vraiment sympa parce que d'un endroit très réduit, ils concentrent toutes les difficultés qu'on a en enduro, quoi. Mmh. Lits de rivière, pierrier, tronc d'arbre, ouais. Marche. Hein.
C'est plus donc du franchissement que de la vitesse.
C'est beaucoup, beaucoup de franchissement. Mmh. En fait, l'enduro indoor avec le véritable enduro, c'est deux disciplines qui n'ont rien à voir pratiquement. Ah oui. En enduro, il n'y a pas de départ groupé, alors qu'en enduro indoor, il y a une grille départ type motocross, il y a 15 pilotes derrière.
D'accord.
Et ça dure que 3 tours, les manches durent 3-4 tours selon les courses. À la base, ça n'a pas grand-chose à voir avec le véritable enduro où là, on se bat vraiment seul contre le chrono. Mmh. Alors qu'en indoor, on se bat contre des adversaires.
Contre les autres, et un
peu. Ouais, c'est une toute nouvelle discipline.
Oui, puis l'avantage de l'enduro en salle, ça permet de faire découvrir aux gens.
Au grand public. Alors,
bon, c'est facile d'aller sur un terrain de cross ou une zone de trial, mais voir de l'enduro, ouais, c'est pour un public, c'est plus compliqué. Mmh. Et comme ce n'est pas très connu et qu'on a besoin d'être connu quand même pour justement.
Pour avoir un peu de sponsor.
Ouais, et puis par exemple,
ça aide aussi à organiser les
femmes aussi, comme ça, elles sont bien au chaud.
Non, ça permet aussi d'organiser d'autres épreuves et de multiplier.
Bon, après, il y a la partie business aussi, mais bon, là, c'est sûr que.
Ah, ben, ça permet de.
On peut pas éviter.
Non, on peut pas éviter.
En tout cas, c'était une première, et puis, bon, peut-être que ça va se renouveler, et on ira sans doute faire un petit tour pour voir ça de près l'année prochaine. Voilà, sans transition, un petit morceau de musique, et après, on reviendra parler là. Bon, alors j'ai entravé un enduro.
Un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique, mais si le technicien revient nous voir.
Si monsieur le technicien revient, mais il arrive à grands pas. C'est un morceau qui ne va pas nous rajeunir, hein, et puis ça tombe bien, c'est les élections. C'est Trust qui chantait L'élite.
Les guidons de l'info, ce soir une émission enduro-enduriste. Et nous avons avec nous deux pratiquants d'enduro, justement, Dominique et Franck. Et on va commencer tout de suite cette rubrique. J'aimerais vous demander quelle est votre définition à chacun personnelle de l'enduro. Ce qu'est pour vous l'enduro, Dominique ?
Ben, moi, avant tout, l'enduro, c'est la passion de la nature et... En premier lieu, la passion de la nature et la découverte de la nature par les chemins, quoi. Aller dans les endroits les plus reculés de France et qui sont vraiment magnifiques, hors des routes goudronnées, quoi.
C'est la balade, tu veux dire ? C'est pas forcément le chrono ?
On est un peu spéciaux parce que
la balade au chrono,
on pratique tout dans la moto, entendons-nous bien. Donc nous, on adore randonner entre potes, on adore la compétition, on pratique l'enduro un peu dans toutes ses formes, quoi, comme beaucoup de pratiquants, quoi.
Franck.
Alors moi, c'est oui la nature, c'est sûr, mais il y a aussi l'esprit de convivialité et enfin d'être avec les copains, quoi. Ça, c'est un truc, c'est génial. Je pense pas qu'on puisse le retrouver. Enfin, j'ai fait très peu de routes. J'ai pas l'impression qu'on peut retrouver la même chose. Parce qu'on fait de la moto ensemble, on peut marcher en faisant de la moto, on peut s'aider en faisant de la moto, on peut faire beaucoup de choses, on peut manger en faisant de la moto, on peut faire beaucoup de choses.
Allez, on peut boire aussi
dans le tout terrain. On peut s'arrêter, je veux dire, on peut s'entraider devant des difficultés, ça c'est bien. Ouais. Après bon, c'est sûr, la découverte de la nature, ça c'est quelque chose de fabuleux, parce que c'est vrai qu'on accède à des endroits où c'est que bon, à part le pédestre, on peut y arriver.
Et encore,
parce que
après deux jours de marche pour y arriver.
Il y a l'esprit compétition que l'on a aussi. C'est vrai comme avec Dom, on fait beaucoup de balades, beaucoup de compétitions. Aux grandes dames de nos femmes d'ailleurs.
Et... Ça, c'est parce qu'elle vous aime encore. C'est pour ça. Après, ils sont contents quand les hommes font de la compétition, ils sont pas là.
Non, puis c'est vrai que même l'enduro, bon, on prend un chemin, une difficulté, ça devient un petit affrontement entre nous, ou tout simplement se surpasser soi-même, quoi. Et sans prendre trop de risques. Parce que je pense pas qu'avec la route, on puisse faire la même chose.
Ah, bah, j'espère qu'on ne fait pas la même chose d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent. Alors l'enduro, c'est quelque chose qui se pratique à plusieurs niveaux, donc aussi bien dans une pratique de loisir qui est facile à aborder, même quand on n'est pas un grand sportif, un grand motard. Est-ce qu'un débutant peut y trouver son compte avec une machine adaptée, avec un encadrement adapté?
Oui, tout à fait. Oui, au contraire, le débutant peut acheter une machine tout à fait basique et puis commencer à faire des randonnées tranquilles sur les chemins, et puis petit à petit progresser avec un groupe ou même, bon, pas seul, il faut éviter d'être seul quand même, puisqu'en cas de chute, tout ça.
Oui, c'est long si t'es obligé d'attendre qu'il y ait un mec qui passe une semaine après.
Surtout si on est sur des hauts plateaux.
Mmh. Ne jamais passer d'ailleurs.
Ça peut arriver aussi.
Tu restes asséché dans la montagne, tel un Figatelli, sympa.
Ce qui est important, je pense, c'est les personnes qui veulent débuter en enduro, qu'ils essayent de contacter ou des clubs ou des associations, dont nous, avec Franck, on fait partie. Pour ne pas la nommer, ça s'appelle Free Enduro.
Ah, c'est vous.
Ça permet surtout, nous on est là, on est quelques-uns, à encadrer les gens sans leur apprendre à piloter, parce qu'on n'a pas du tout
cet
objectif-là, mais surtout les encadrer et leur donner au moins les bases de ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire dans notre discipline.
Tu ne te lances pas dans la montagne, j'imagine, comme ça,
pour l'instant. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant,
c'est pas la saison, tu vas me dire.
On a été, ouais, c'est pas la saison qui se prolonge, quoi. On a été plus ou moins très très surveillé.
Oui, forcément, on en a largement parlé dans cette émission, grâce à notre cher ministre Olin.
Olin a essayé de nous mettre plus ou moins des bâtons dans les roues. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut pas se lâcher tout seul comme ça dans la nature, se rapprocher de clubs ou d'associations. Et bon, nous, on se fait un plaisir d'accompagner de plus en plus des nouveaux, quoi. Il y a absolument aucun problème.
Ouais, on donnera tous les détails de...
On n'a pas le droit de rouler n'importe où. Hein. C'est, la montagne, c'est pas ouvert pour tous. Hein.
Voilà.
Et puis, bon, ça, il y a un minimum de respect aussi pour l'environnement et pour la nature.
Il y a des gens qui travaillent la terre et il faut respecter ça. Une route goudronnée, c'est une chose, mais un chemin, ça peut être privé. Voilà.
En ce qui concerne les motos d'enduro, quelles sont les caractéristiques de ces machines-là?
Des suspensions, des pneus, des pneus à crampons, conformes à la législation, surtout.
Pourquoi il y en a qui ne sont pas conformes? C'est-à-dire
ben, il ne faut pas utiliser les pneus cross.
Ils
ne
sont pas labourés, quoi.
Les pneus cross, même si les pneus qu'on utilise.
Ils sont très proches, non? C'est quoi les différences? Parce que justement, je ne vois pas.
Ils sont plus tendres.
Ils sont plus tendres les vôtres.
Mais bon. La hauteur des crampons, les pneus homologués sont plus bas. Ils ne doivent pas dépasser 13 mm.
D'accord.
Et surtout, malgré qu'on l'ait tous fait quand on était jeunes, essayer de ne pas rouler avec des motos de cross dans les chemins.
Ouais.
Et notre pire ennemi, c'est le bruit. Malheureusement.
Du 4 temps un peu en moto d'enduro maintenant?
2 temps, 4 temps.
Le 4 temps est venu en force dans les, vers 2000.
Ouais, dans les années 98 avec la 400WR.
Mais ça n'arrive pas à s'installer.
C'est pas ça, c'est une question de coût. Déjà, il est plus cher à l'achat, plus cher à l'entretien. Et alors que le 2 temps reste quand même facile d'utiliser, plus facile d'utilisation peut-être.
Bah, on a reçu il n'y a pas longtemps un de vos collègues qui est trialiste. Et qui en fait nous disait la même chose, hein, que le 4 temps est arrivé dans le trial, que sur le coup il y a eu un espèce de succès, on a vu et tout, puis en fait petit à petit les gens ils y reviennent, d'abord à cause du bruit, parce qu'un 4 temps quand même quand c'est à moitié en échappement libre, c'est vrai que tu l'entends bien, même si un 2 temps c'est agressif, c'est pas le même, c'est pas la même. Enfin, il disait que pour le trial c'était vraiment flagrant, le bruit était gênant, le bruit du 4 temps.
Vous savez, les enduristes ils sont comme tout le monde, hein, ils aiment bien se montrer,
ils aiment bien le bruit,
tout. Avoir le dernier produit, le dernier crime, en fin de compte, on se rend compte que
c'est pour
ça
ne
sert pas grand chose parce que une moto.
C'est pas ça qui fait passer la moto.
Non. Voilà. Puis bon, on le voit, il y a un constructeur en particulier qui est KTM, pour ne pas le citer.
Ouais, un Orange, quoi, on va dire.
Ouais, bon.
Constructeur Orange.
Et ils font les motos, c'est le plus gros revendeur de motos tout-terrain. En France et même je pense en Europe sûrement.
Ça veut dire qu'ils sont un peu spécialistes aussi pendant très très longtemps.
Ouais, ils sont. Puis bon, ils s'impliquent énormément à la discipline et bon, ils prouvent bien qu'on peut faire des motos très silencieuses et très performantes.
Ouais.
Associer le bruit à la performance en enduro, c'est carrément du n'importe quoi.
Mais dans tous les sports.
C'est à court terme.
Dans tous les sports mécaniques.
Oui, oui. Et puis bon, le problème, c'est que dans les vallées, d'une vallée à l'autre, une moto qui fait du bruit, ça s'entend à des kilomètres, quoi. C'est pire que la ville.
Mais surtout qu'il n'y a pas de bruit, donc on entend que ça.
Ouais.
Oui, oui, non, mais je peux comprendre que ce soit vraiment bien. Et puis en plus,
nous, on le voit quand on est déjà entre nous, quand il y a quelqu'un qui a une crevaison ou qui est perdu ou quoi, des fois il est dans la vallée.
Ouais, tu l'entends encore.
Plus d'un kilomètre de nous, on l'entend comme il était à 500 mètres. Bon, nous, on a l'habitude, les gens du pays n'ont pas forcément l'habitude, donc ça, c'est un point en enduro, je pense qu'il faut vraiment.
Même s'ils l'ont, ils n'ont pas forcément envie de la prendre,
ouais,
l'habitude.
Ouais, exactement.
Je peux comprendre aussi, quoi, quelque part.
Même à rouler à plein en bande en copain, j'imagine que quand t'as le mec devant qui t'arrose les oreilles, au bout d'un moment.
Même le pilote, nous on a eu malheureusement l'an dernier des motos qu'on nous a vendues qui faisaient assez de bruit. Même nous, au bout d'une heure, ça nous fatigue.
Ouais, c'est ça, c'est un peu.
Oui, c'est. Il faut quand même respecter un peu.
On essaye.
Donc aujourd'hui, il faut limiter le nombre de randonneurs, enfin, ça c'est important aussi.
Ouais.
Et les gens se limitent maintenant de plus en plus. Avant, bon, il y avait 10, 15, 15, 15, 20 motos maintenant.
Ça commence à faire beaucoup, ça fait une horde là.
Ça fait trop, ouais, ça fait trop de toute façon. Donc là aujourd'hui, l'idéal c'est entre 5, 6 maximum quoi. Mais ça commence à venir, les gens commencent à se rendre compte.
Bon, ils s'autorégulent eux-mêmes quoi.
Finalement. Tout à fait.
Et surtout être discipliné quoi.
Ouais.
Le maximum, bon, des fois il y a un peu de pétage de plomb, hein, ça c'est normal, hein, on fait de la moto. Hein.
Oui, oui.
Non, mais, c'est bon. Mais bon.
Ça peut se comprendre aussi.
Tu pètes les plombs, toi.
Ah, ah bon.
Alors, l'un et l'autre, vous pratiquez l'enduro depuis combien de temps?
Vous êtes tombé dedans quand
vous étiez petit. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Moi, je ne peux pas le dire. Hein. Plus longtemps que. Dominique, plus longtemps que moi, ça c'est sûr, parce qu'il est plus vieux.
Mais ça existait déjà, la moto, à cette époque?
Ouais, ouais. Avec les cheveux longs, non, tout ça.
Ah ouais. Moi, j'ai commencé. Alors,
moi, j'ai commencé à 17-18 ans, puis j'ai arrêté après, et j'ai repris il y a à peu près 6 ans, voilà. Et j'ai repris, et puis j'ai rencontré d'hommes. Et depuis, on se quitte plus.
Ouais, ben moi, j'avais pareil que Franck, hein, j'ai 46 ans, j'ai commencé.
Ah, j'ai pas dit mon âge, moi.
Moi, je le dis, je pense.
Il a rusé.
Il se préserve. J'ai commencé à rouler, j'avais 16 ans. Bon, après, il y a eu plus ou moins des intermèdes. Je m'étais pratiquement arrêté il y a 7-8 ans. Et puis, j'ai fait la rencontre de ce zouave, là, et l'entraînement, ça fait que je suis reparti de plus belle.
Je comprends pourquoi elles sont jalouses maintenant, vos femmes, ça y est, c'est bon.
C'est pas la compétition.
On est toujours ensemble. Si ça fait 7-8 ans que vous êtes inséparables.
Et hormis le fait que bon, vous pratiquez ensemble depuis longtemps, et bon, on a compris que c'est une histoire de passion quand même, un loisir qui vous tient à cœur, comment vous en êtes arrivé à l'idée éventuellement d'être dans Free Enduro et de participer à un forum de discussion de motards? D'ailleurs, Dominique, tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est de Free Enduro, ce que c'est, comment c'est né et,
oui, en fait, c'est un passionné d'enduro lui aussi, qui a créé ce forum, et tout le monde, du bouche à oreille, a découvert Free Enduro, et on a lié beaucoup beaucoup d'affinités entre nous, ce qui est vraiment très très bien, comme je vous dis, ça nous permet d'encadrer des gens, et puis il y a toutes les générations qui se rencontrent dessus. Nous, on se régale avec Franck de rouler avec des jeunes de 18 ans. Il y a quelques filles aussi qui roulent en enduro.
Quelles filles qui roulent en enduro
un jour? Si, si.
Mais tu es sur un pied, oui.
Tu es invité à venir.
Ce qu'il faut, c'est que tu puisses toucher les pieds par terre. C'est ce qui est important.
Donc voilà, et puis surtout, on s'est fait une bande vraiment de très très bons copains, quoi. On partage les sorties, tout. C'est vraiment génial, quoi.
C'est aussi un bon moyen, puisque c'est Internet et que tout le monde y a accès, d'être un vecteur de messages et de conseils pour les jeunes.
Surtout de conseils, oui. Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux qui viennent.
Humblement, on essaye. Hein.
On essaye. Oui. De conseils, enfin, il y en a qui sont un peu spécialisés là-dedans. Conseils mécaniques ou façon de rouler ou rouler tout simplement. Hein. Faut pas trop compter dessus pour d'organisation parce que c'est très complexe. Et puis c'est vrai qu'on peut pas rouler n'importe où. Mais c'est vrai que les gens qui veulent commencer ou prendre des conseils pour l'achat d'une moto ou rouler ou réparer, oui, peuvent. Ça permet justement de démocratiser un peu ce sport.
Bah ensuite, une partie plus sportive où on annonce toutes les courses de la région. On a les calendriers avec les coordonnées des organisateurs, donc ça permet aux gars qui veulent faire une ou deux courses de suite de trouver les bulletins de description. On parle aussi un petit peu de l'actualité sportive. Tu as parlé de l'enduro indoor tout à l'heure. Bon, on donne aussi les résultats sportifs.
Les orpailleurs, c'est quelque chose que vous faites ou pas?
Non, les orpailleurs, on les a jamais fait.
Nous, on n'y a jamais été, on connaît très bien. On n'a jamais été roulé là-bas. C'est une très très belle.
Très belle sortie, oui.
C'est une excellente sortie, les orpailleurs n'étant pas une compétition. Non, ça ne rentre pas dans
une quelconque championnat. C'est une randonnée organisée.
C'est une rando d'enduristes qui veulent se faire plaisir. D'un très très haut niveau, il y a en général une centaine de participants. Ça se passe aux environs du mois de mai, chaque année, sur 3 jours, où ils font quelque chose comme 80-90 bandes par jour.
Ouais, cette année, je crois que pour la première fois, ils l'ont fait au roadbook. Les autres années, c'était fléché. Cette année, ils l'ont fait au roadbook, je crois.
Et parce que l'enduro, c'est aussi du rallye raid, quelque part.
Bah, c'est un peu ça, c'est de l'orientation.
L'enduro en compétition, ça se rapproche énormément. C'est carrément calqué sur le rallye en voiture. C'est-à-dire, vous avez de la liaison, un point A à un point B à aller dans un temps imparti. Et ensuite, des secteurs chronométrés, on a environ 4-5 secteurs chronométrés.
Avec reconnaissance avant?
Non.
Non, ah oui.
Non, c'est beaucoup de pilotage
inné, on va dire.
À vue. Bon, ensuite, on va dire les pros de la discipline, eux, ils ont une course, admettons un championnat de France, il y a 2 jours de course, le samedi et le dimanche. Mais eux, ils viennent en général à milieu de semaine et ils reconnaissent toutes les spéciales à pied. parce que eux ils roulent à des vitesses que ils peuvent pas savoir, peuvent pas se permettre de se sortir.
Si ça redescend,
eux voilà, par rapport après un saut, après tel virage, il faut qu'ils connaissent. Donc ils font tout le circuit à pied pour analyser le circuit quoi.
Ouais, nous on reconnaît autre chose.
Nous on reconnaît le bar en général. C'est le soir, on le reconnaît.
C'est facile, c'est où il y a la musique et les gens y crient.
Voilà, ouais, ça va bien. Ça va là pour les reconnaissances.
Bon, vaut mieux le reconnaître quand même plusieurs fois avant.
D'ailleurs, on passe souvent quand on a trouvé un bon
au départ de la course, on est toujours en retard d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, bah, c'est, voilà.
Voilà, sinon, question, ça se rapproche énormément du rallye en voiture, quoi.
Et au niveau des épreuves en France, au niveau national, qu'est-ce qui existe comme, comme type d'épreuve? Est-ce qu'il y a des différents niveaux pour débutants, des niveaux plus élevés, des championnats différents? Ça s'organise comment?
Il y a les championnats de ligue, donc c'est les régions. Après, vous avez dans chaque championnat différents niveaux. Le plus petit niveau, il fait un tour en général du circuit avec en évitant des difficultés. Et deuxième niveau, c'est deux tours. Troisième niveau, c'est trois tours. Les temps sont plus courts entre chaque CH. Et après, il y a les classiques qui, elles, amènent beaucoup de gens, beaucoup plus de randonneurs que de compétiteurs.
Type trèfle lausérien,
trèfle, la
quadruple aveyronnais, grappe Cyrano. Voilà.
Et après, vous avez aussi les endurances qui fait un peu partie de la famille de l'enduro. C'est un peu du cross et de l'enduro.
Combien de licenciés en France, vous savez, à peu près? Non, vous n'avez pas d'idée?
Ouf, alors là, je peux pas te dire, mais je pense que la licence tout-terrain est largement la première en France.
Ouais, parce que...
Largement devant la licence
trivial, circuit. L'enduro, ça fait
ouais,
du bon,
avec la licence tout-terrain, on peut pratiquer l'enduro, le motocross, les endurances, les courses sur prairie, le grass track, donc ça...
Ouais, enfin, grass track, il n'y a pas non plus grand monde.
Ouais, non, mais bon...
Mais oui, en France.
Non, mais c'est bien qu'on puisse... Il y en a quand même. Hein.
Après, vous avez l'UFOLEP aussi qui organise des enduros ou quelques endurances.
Ouais, là, c'est licence FFMF, Fédération Française de Moto. Ensuite, il y a l'UFOLEP qui se lance un peu dans la discipline moto tout-terrain. Ils sont très, très impliqués sur Midi-Pyrénées au niveau du motocross. Et de l'enduro, ils sont énormément impliqués en Aveyron et en Lozère. Eux, ils ont un championnat complet de 5-6 épreuves à Lozère. Ah ouais. Un championnat magnifique. Voilà.
Et si on sort un petit peu des frontières, on a ce qu'on appelle l'ISDE. Vous traduisez ça comment?
Les ISDE, c'est ça, c'est une épreuve magnifique. C'est le championnat du monde d'enduro par équipe. C'est-à-dire chaque pays envoie ses 6 meilleurs pilotes et chaque pays s'affronte quoi. Bon, la France, on a la chance d'avoir chaque année une très très bonne équipe. On a été champion du monde, on a gagné les ISDE, si je me rappelle bien, en 2005. Chaque année, on est dans les trois premiers, quoi. Donc, il y a une équipe senior, avec 6 pilotes, et une équipe junior aussi, avec 6 pilotes, quoi. Et bon, chaque année, c'est des très très bons résultats, quoi.
Alors, ISDE en anglais et avec l'accent,
jours.
Mais c'est pour Dao en anglais avec l'accent.
Mais tu peux le dire en français, hein, les 6 jours.
Les 6 jours.
Les 6 jours, tout simplement. International Six Days of Enduro.
Voilà, pour comprendre le sigle au moins pour ceux qui.
Non, mais en français, tu dis les 6 jours, hein, quand tu dis telle marque a gagné les 6 jours.
Et ça existe depuis combien de temps, les ISDE?
Depuis que la moto fait du tout terrain.
À peu près, ouais.
Donc, très vieux. Ça doit être quelque chose comme 1913, alors. C'est début du siècle dernier.
C'est bien possible.
C'est dans ces années-là, et puis au tout début du siècle dernier, c'était grosse bataille entre la France et l'Angleterre sur ce terrain.
Surtout avec l'Angleterre, puisque c'est eux qui ont aussi initié l'enduro un peu, avec le triomphe.
Enfin, ils mettaient un grand guidon pour relever.
Comme tu disais tout à l'heure, tout est parti des scramblers. Ouais. C'est avec les scramblers la première fois qu'on a mis les tétines dans les chemins, quoi. Bon, alors, on n'était pas né, mais bon.
Ah bon, t'étais pas né, toi?
Ah oui, si, j'étais né, ouais, si.
Justement, ça, c'est pour la page histoire, on y reviendra juste après le morceau de musique. Vous restez avec nous, on continuera sur l'enduro. Et ce petit morceau, là, pour nous permettre c'est de respirer.
Monsieur Catherine. Oui, je sais,
c'est un monsieur.
C'est un monsieur.
Son
qui s'appelle Catherine et qui nous chante Barbecue à l'Elysée.
On était des milliers. Barbecue de l'Elysée, tous de blanc vêtus, tous toutes en dos nus, et les gens se baignaient dans des bains de champagne. Les gens se caressaient sur des tissus pagnes. Il y avait Frank Sinatra, Madonna et Jean 23, Gershwin au piano et Yoko Ono. Il y avait Woody Allen, il y avait Eminem, Elvis Presley, Charles Trenet. Ce que je faisais là, je ne le savais pas. On était des milliers. J'ai déjà oublié ce que je faisais là, je ne le savais pas. J'ai raconté tout ça et je suis rentré chez moi.
On est revenu dans les guillons de l'info. On aurait de la matière pour 3 heures d'émission ce soir, mais on va essayer de faire court quand même. On va rentrer dans la page histoire. Alors, avant de commencer, je vais vous donner une adresse net, un site internet, pour ceux qui s'intéressent à l'enduro et justement à l'histoire de la moto et de l'enduro. C'est sur Enduretro. enduretro.free.fr. Et c'est un début d'histoire de l'enduro écrit par Jean-Marc Oziol, un Lozérien, et un membre fameux du motoclub Lozérien, justement. Et puis c'est là aussi où le trèfle Lozérien, qui nous a commencé un petit historique sur l'enduro qui va de 72 à 78. Alors il est à continuer. Je ne sais pas s'il le fera ou si quelqu'un prendra la main. Et donc voilà, c'est enduretro.free.fr. Et je laisse la parole à The Pat, qui a plein de choses à nous raconter sur le sujet, justement.
En fait, justement, cette histoire d'enduro, on était en train d'en parler pendant la coupure, c'est que c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on part d'une moto à grande roue, où on met un échappement relevé, un grand guidon, pour faire les premières épreuves, les Anglais, hein, les Triumph, BSA et autres enclumes. Enfin, je dis enclume parce que quand même, il fallait du biscotto. Hein. Il fallait autant de biscotto qu'il manquait de neurones pour rouler là-dessus. Hein. Mais c'était bon. Et ça part de là, et effectivement, les quatre grandes catégories de motos tout-terrain, elles vont se développer chacune avec leurs particularités, mais elles ont quand même une racine commune.
Alors,
j'exite les Japonais pour l'instant, hein, parce que là, je vous ai fait un petit résumé en ramenant quelques marques qui n'existent plus, alors que les Japonais, ils existent toujours, donc c'est moins difficile. Et, donc en fait, il y a quatre grandes catégories, hein. Il y a donc le trial, l'enduro, le cross, et puis on va dire les motos de trail qui sont pas vraiment une catégorie, mais c'est plus ou moins des motos rallye raid. Enfin, en tout cas, c'est ce qui deviendra des motos de rallye raid. Puis maintenant, les trails, c'est des motos pour rouler en ville. Ça, je sais pas pourquoi.
Ça n'existe plus.
C'est curieux, hein.
Ici, moi, j'en ai un. Comment...
Ouais, mais c'est
des vieux.
C'est comme les 4x4.
Tu roules en ville. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme les 4x4.
Non, c'est le 4x4 de la moto.
Alors j'ai pris quelques grands noms comme ça, je suis sûr que vous, ça va vous rappeler des trucs, et puis au plus ancien, hein, ça va exciter la mémoire des vieux motards que jamais. Si je vous dis Husqvarna. Alors Husqvarna, on pense tronçonneuse, tondeuse à gazon. Hein. Non, pourtant cette petite entreprise suédoise qui est créée quand même en 1689.
C'est le plus vieux fabricant de motos tout terrain.
1689. Tu te rends compte, là c'était fabriqué pas de moto, mais il fabriquait des mousquets.
Des mousquets, ouais.
Ouais, c'est un fusil en fait, avec un truc en forme d'entonnoir.
Il se diversifie au cours des siècles, fait des machines à coudre, des bricoles. Puis en 1880, il commence à fabriquer des vélos. Et enfin des motos, hein, 1903. Ils fabriquent pas les moteurs, hein, c'est des gros moteurs 4 temps qu'ils empruntent à FN, à Motorève, à NSU. Dans un cadre, par contre, qui est maison. Mais c'est dans les années 20 qu'ils remportent les fameux 6 jours. Donc tu vois, on arrive bien à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est quand même un
et
truc...
Et c'était, non pas les ISDE, mais les ISDT. Les International...
Six Day
Trial.
Trial. Donc, c'était une vitrine de la catégorie. Donc, en 35, ils sortent leur premier deux temps, populaire économique, 98 cm3, donc c'est pas du tout un truc d'enduro, ni de trial, ni rien. Mais c'est quand même une conception entièrement maison, partie cycle et moteur. Et il faut attendre 57 pour qu'ils lancent la fameuse Silver Pilen. En suédoise, de Fiat Silverpilen, qui s'appelle la flèche d'argent. Eh oui. En 70, la marque connaît un vrai succès, autant en cross qu'en enduro, hein, jusqu'en 87, où elle est revendue à Kajiva, qui se tournera vers le jardinage. Bon. Pourquoi pas, hein.
C'est une réconversion.
C'est dommage, c'est la fin de 85 années de production moto qui était plutôt rigolote en Suède.
Mais ils ont continué, non ?
Et ils n'ont pas continué, non, non. Oui, mais c'est plus le groupe d'origine en fait.
Ouais, là ils sont fabriqués en Italie maintenant.
Ouais, c'est
là ils sont pour parler, pour être revendus, pour être rachetés par BMW.
Ah ouais. Ouais.
En plus.
D'avance, tu me branches, je te rachète.
Certains ingénieurs sont restés pour créer la marque Usaber.
Voilà. C'est Usaber, oui.
Qui appartient aujourd'hui à KTM.
À KTM.
Ouais.
Ah bah tu vois comment on
toujours le même gros.
Ouais.
Autre marque, hein, dont on a déjà parlé ici en fait, qui vient du démantèlement de DKW, qui a quand même pareil marqué un petit peu l'histoire de tout terrain, c'est MZ, Motorrad und Zweidarkwerk. Son nom d'origine quoi. Moto, en fait le vrai nom c'est
Moto du peuple.
Motorradwerk Schwoppo. Ah. Ce qui veut dire moto fabriquée à l'usine de Schwoppo. C'est pratique.
Bon, c'est pas trop où c'est, Schwoppo, mais...
Schwoppo, c'est, c'était du mauvais côté du mur, on va dire.
D'accord, oui, c'est un
alors qu'avant, ils seraient restés des KW s'ils étaient restés du bon côté. Ceci dit, ils auraient quand même été rachetés par Audi qui a arrêté la moto, donc ça aurait pas changé grand-chose.
D'accord.
Au moins,
ils ont vécu plus longtemps et ils existent encore.
Ils existent encore, mais c'est pareil. Hein, ce qui existe encore, c'est une marque qui a été revendue à des Turcs qui s'appelaient Kanuni, qui ont quand même perdu le procès contre les Allemands qui voulaient garder le nom.
Ils ont quand même été revendus à des Coréens.
Ouais, c'est un truc un peu étrange. Ils vendaient les usines clés en main, tu sais, un peu comme a fait Enfield à une époque aux Indiens, et puis bon. Et puis après, ils récupèrent le nom en Europe. Enfin bon, c'est un sac de nœuds, un sac de crabes. Mais bon, quand même, on peut dire que MZ, on le sait, hein, ça a fait plein de, il y a quand même un paquet de brevets MZ qui existent. Des inventions aussi diverses que l'admission par disque rotatif.
Ah, c'est eux?
C'est eux.
Je crois que c'était Kreller.
Le pot de détente.
C'est rigolo.
Non. Le pot de détente. Le calcul et tout, c'est un ingénieur qui s'appelait Walter Kaaden, qui a eu la première occasion qu'il a pu se tirer chez les Japonais, il est parti. Comme par hasard, l'année d'après, les Yamaha qui couraient en Grand Prix, elles se retrouvaient avec des pots de détente et puis des
Tu m'étonnes, ça peut pas marcher autrement, de son que.
Bah ouais, c'est comme ça. Il a profité d'un Grand Prix en Europe, tu vois, pour se tirer avec sa famille, ses enfants et hop, direction le Japon. Bon, enfin bref. Mais toujours est-il que les petits MZ, ils avaient 8 titres de champion du monde. Et si vous avez déjà eu un MZ, vous le savez. Parce que sur le bouchon de réservoir, c'était marqué. Il y avait marqué Six Day et puis il y avait marqué les années comme ça autour. Je m'en rappelle parce que j'ai eu un 250 avec un sidecar qui était vraiment une superbe machine qui arrivait à démarrer en marche arrière. Enfin, ça,
très pratique, hyper utile de rouler en marche arrière à toute vitesse.
Au fur et à mesure que le rupteur s'usait, tu décalais ton avance, tu mettais un coup de kick, tu passais la première et le truc reculait. Ça surprend vachement, surtout les mecs qui sont derrière toi au feu rouge en général. Enfin bon, c'est un détail. On continue avec les Ariens toujours, il y a Push. Marque autrichienne, Push quand même, qui a fabriqué dans les années 50-60 des motos tout-terrain, plutôt destinées au cross et à l'enduro d'ailleurs. Et ils ont continué un petit peu dans les années 70, puis après 70, c'est parti que dans des petites cylindrées. Ils ont petit à petit abandonné l'affaire pour rejoindre au cimetière des marques européennes, tous ceux qui sont tombés au champ de bataille nippon. On peut citer quoi encore? Les Tchécoslovaques CZ,
C'est Z, MZ, c'est un peu la même crèmerie, mais c'est des Tchèques, les autres c'est des Allemands d'Est. Maïko.
Fameux. Alors,
Maïko quand même, c'était ouais. une fameuse marque, ouais, allemande.
Ça me rappelle des souvenirs, parce que j'en avais eu un.
ils avaient une publicité, je m'en rappelle pas, parce que j'étais pas quand même si vieux que ça. Je vois la pub où il y a marqué la moto d'enduro la plus fine du monde. C'était leur, ouais. leur critère.
Pas accéléré, surtout velu, quoi. C'était surtout ça le caractère.
Faut quand même préciser qu'ils ont eu 12 médailles d'or au 6 jours. Hein. Donc c'est pas rien. Toujours à l'Est, hein. On va passer à côté, toujours à l'Est de la France, hein. Pas du mur.
On avait compris.
Une marque toujours bien vivante dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est fondée en 1934 à Mattighofen, c'est près de Salzbourg, en Autriche. KTM, exactement, ouais. Commence sa production en montant des petits moteurs des KW. Toujours les fameux des KW, toujours MZ, IFO et autres teutonneries. Les KW, puisqu'ils étaient en fait les représentants des KW en Autriche, et ils ont commencé à fabriquer des parties cycles sur ces petits moteurs. Il faut attendre les années 50 hein, pour qu'ils mettent pour faire une vraie moto tout-terrain avec un moteur Rotax dedans. Et en 53, ils sortent la toute première moto sous le nom KTM, dont ils avaient fait et la partie cycle et le moteur. Moto qui remporte les 6 jours en 54, en 64, en 66, en 67, en 70. C'est la première moto donc qui sort avec un moteur maison, quand même. Alors donc, ça fait une palanquée de médailles d'or aux 6 jours, parce qu'aux 6 jours, si j'ai bien compris, c'est des médailles qu'on gagne.
Ouais.
C'est marrant, je trouve ça rigolo. Ça fait un peu Jeux Olympiques de la moto. Et en 74, ils sortent une moto qui est quand même assez mythique, la fameuse 250 Katoche. En tout cas, c'est la moto sur laquelle j'ai fait mes armes. J'avais mon voisin, il avait une 250 en cross, 4 vitesses. Mmh. Et moi, j'avais une 250 en enduro, en 5 vitesses. C'était les mêmes, il y en a une qui avait un phare et puis une plaque, et l'autre qui l'avait pas. Et il manquait une vitesse. Et c'était des motos qui tiraient fort sur les bras. Enfin, surtout quand t'as 14 ans. Et c'était quand même une sacrée brêle. Bon, on va arrêter de tirer dans l'Est, on va aller vers la Méditerranée où justement il y a la patrie de ceux qui ont inventé l'enduro tel qu'on le connaît aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, c'est les Rital. Hein. Alors là, en Italie, on va pas citer toutes les marques parce que à l'italienne, il y en a tellement que de toute façon, tu t'en sors pas. Toutes les marques ont fait un modèle tout-terrain hein, puisqu'ils ont essayé de vendre. C'était un peu compliqué. Aspes, Guzzi, tous ils ont fait des marques. Pourtant, Aspes, ils ont fait des sacrés brels de route, mais bon, ils ont aussi fait des tout-terrains. Je sais pas ce que ça valait, j'en ai jamais vu. Vous connaissez ça de l'Aspes en tout terrain, enduro?
Il y en a une à Toulouse, je crois.
Ah ouais.
À l'époque, ils travaillaient pratiquement tous avec. Il y avait deux constructeurs de moteurs.
C'était le moteur.
Ouais, avec Minarelli, il y avait Morini,
des petits artisans.
Et tout le monde travaillait autour de ces moteurs-là, quoi.
Mais le Sach hérisson, là, avec la grosse culasse hérisson, c'est super.
Le Sach, il a été monté sur beaucoup, beaucoup de motos d'enduro. Hein.
Je me rappelle de Monarch et de marques comme ça, là, qui ont disparu dans l'oubli. Et donc, il y a quand même une marque. Alors, c'est pareil, hein, c'est très sentimental, parce que vu que tu as des centaines de marques, il faut que j'en choisisse une. Alors, je me rappelle de celle de ma jeunesse, et c'est quand même Fantic Motor. Ça naît en 66 du cerveau d'un mec. On a un petit peu entendu parler, hein, si on connaît la moto, c'est M. Garelli, qui avait aussi une marque Garelli, qui était quand même des sacrés brels. Quelle idée, en fait, d'inonder le marché européen et américain de petites motos loisirs tout-terrain. Et d'où le nom Fantic Motor, ça fait plutôt anglo-saxon plutôt qu'italien. Hein. Et en fait, en 68, il sort une gamme avec des moteurs qui sont issus de tondeuses à gazon, de marque Aspera, et des petits 50 Minarelli. Il va développer tout ça, il va sortir un modèle qui est quand même mythique, c'est le Caballero. Le 50 Caballero qui a quand même marqué, c'est une marque de cigarette hollandaise, Caballero. Je sais pas pourquoi il a choisi ça, alors ça, on sait pas, mais... Et le Caballero, il a vraiment eu un succès important, parce que je me souviens très bien que c'était le rêve de tous les gamins. Je roulais sur un Cimati et je voulais un Caballero. Mais bon, j'ai continué à rouler sur mon Cimati, c'était bien. Il a sorti le RC aussi pour Rigolata Competition, comme on disait tout à l'heure. En fait, c'est ça la vraie définition de l'enduro, une course de régularité. Et 125, il a connu dans la discipline un petit peu de gloire, on va dire. Et bon, ça a duré jusqu'en 79, où là, ça a commencé à sentir le sapin, de toute façon, pour la moto européenne. Et en 90, ils ont fermé l'usine, c'était fini.
Qu'est-ce qu'il y a chez
les... Et puis les Japonais sont arrivés en force aussi à cette période-là.
Oui, ils sont arrivés un petit peu avant les Japonais.
Fanatic Motor, depuis 2005, ils reviennent.
C'est ce que j'allais le dire, en fait.
La scène, là, ils ont sorti un 50 qu'ils appellent toujours Caballero, qui est vraiment le plus beau 50. Elle est magnifique, quoi. Je pense que tous les jeunes doivent rêver de rouler avec le 50 Fanatic Caballero, quoi.
Ouais, ça a été, en fait, la marque, le nom et l'outil de production de l'époque a été racheté par un riche, comment on va dire, un riche industriel, ouais, limite mécène, qui justement était un amateur de la marque quand il était jeune et qui n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et effectivement, ils sont très beaux. Sur le site fanticmotor.it, tu vois la gamme, il y a 4 modèles. Ouais, non, il y a 3 modèles, je crois, en 50.
Un petit 125
et 3 en 125,
aussi. Ouais. C'est sympa.
Un super motard, ouais, un petit ouais. enduro, très très bien fini, c'est très joli. Bon, ça a l'air d'être encore un peu distribué au compte-gouttes.
Ouais.
C'est une petite marque, quoi. Mais bon, c'est bien les petites marques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez les Espagnols ? Alors, chez les Espagnols, c'est quand même le pays du trial. Hein. Les marques sont les modèles et les marques, il y en a eu quand même un paquet. Il y a Bultaco.
Bultaco.
Créé en 58 par un ancien ingénieur de chez
Ossa, c'est espagnol aussi.
Montesa, Ossa. Montesa, et ça, alors Bultaco, c'est le modèle culte, c'est la Sherpa, quand même. Voilà, la marque est disparue en 83. Montesa, donc, qui a laissé pas mal de... C'est pareil, qui s'est fait un nom dans le trial avec la Cota, et puis l'Impala, qui existe toujours, par contre. Déjà ça, je pensais que ça n'existait plus, et j'ai découvert que ça existait toujours. Mmh. Et par contre, que l'usine continue à assembler des cyclos, mais pour une autre marque, que je connais pas, et qui s'appelle Amamatsu.
Ça sent le bridé, là.
En trial, ils sont partenaires avec Honda. Ils ont monté le moteur. La moto s'appelle Honda Montesa. Il y a le moteur Honda 4 temps qui est... les motos sont montées en Espagne.
Ah, oui.
Ils roulent encore un championnat du monde de trial.
Donc, Ossa, comme tu disais, qui a été créé en 51 par M. Giraud, qui était projectionniste de cinéma. Comme quoi... Hein. La marque produit des motos jusqu'en 85, puis ferme ses portes. Et alors j'ai vu un truc incroyable. Moi je connaissais cette marque sans glace. Je connaissais les gros 4 temps sans glace qui mangent autant d'huile qu'un 2 temps d'ailleurs. Tu te demandes si c'est vraiment un 4 temps. Et ben j'ai vu qu'ils avaient fabriqué des... Ah non, si c'est incroyable les sans glace. Sans glace, c'est... Bon, bref.
Sans glace, c'est plein d'huile.
Oui, c'est plein d'huile. Ouais. Et j'ai découvert qu'ils avaient fabriqué une petite moto de tout terrain, un enduro, juste avant d'être acheté par Yamaha en 1981. Mais ça, l'Espagne, je le garde sous le coude parce que je vais faire un petit sujet sur la moto espagnole bientôt. Et j'ai oublié des marques, hein, mais je peux pas toutes les citer parce que quand même, ben voilà, disons que jusqu'aux années 85-90, l'enduro, le cross, le trial, ça représentait une grosse, grosse activité du deux roues.
C'est dommage qu'il manque les marques françaises.
Bah, je les ai pas fait, les marques françaises, parce que c'est quand même des marques un peu anecdotiques, non ?
Oh, il y avait des...
Dis-moi.
Je sais pas.
En 50 ? Du BPS, des trucs comme
bon,
ça.
SWM, c'était...
BPS, c'était SWM.
C'était, ouais.
Ils partaient d'une base SWM en Italie et les motos BPS étaient montées dans la région.
À
Villefranche.
À Villefranche,
ouais. Ouais, Portal, mais c'était toujours des anciens...
Portal, ouais.
Denis Portal, qui était dans la région, qui, lui, a créé à l'époque des très, très bonnes motos. Très très bonne moto, il fabriquait ses particules un peu genre treillis, un peu genre Ducat, quoi. Là-dedans, c'était un précurseur, quoi. Puis bon, dans les années.
En petite cylindrée, il y en a eu, mais en grosse. Genre, j'en vois pas, moi, des motos de.
Non, celui-là qui a fait les plus grosses à l'époque, 125, 175, 250, c'est Portal, quoi.
Moi, j'en ai eu une, 175 Portal.
Ouais.
J'avais acheté ça à une misère et c'est parce que c'est la seule que je pouvais me payer à l'époque.
Et aujourd'hui, on voit arriver Sherco. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de Sherco ?
Ah, Sherco, c'est une longue histoire. Là, Franck va pouvoir.
Il faudrait
nous en
toute
parler.
Une émission là-dessus.
Barrigo,
donc il faut revenir.
Barrigo, il en a fait quelques motos.
Oui, Barrigo, ouais, il faisait des
parties. D'ailleurs, tous ces gens-là, ce sont des anciens enduristes, hein, les Français. Enfin, d'ailleurs,
ouais.
Puisque BPS, il y avait le père Sura aussi qui avait
fait la Portal Sura.
BPS est boudé, Portal Sura.
Ouais.
Alors, Sherco.
Ah, Sherco, Franck a été un de leurs premiers clients.
Ben... Ah, c'est toi.
Non, c'est une très bonne moto, mais malheureusement, une finition à l'espagnol, on va dire. Voilà. Après, c'est une très bonne moto enduro.
Et tu sais que j'ai une espagnole, moi.
C'est pour ça que je le dis.
Non, ils ont fait une très très bonne moto.
Très bon, commercialement, pas très à la hauteur.
Ce qui leur a manqué, je pense, pour arriver à se développer dans un marché qui est hyper hyper concurrentiel. Ils ont choisi en plus une catégorie où il y a des monstres, les Japonais et KTM en particulier. Ce qui leur a manqué, c'est un réseau commercial haut de gamme, quoi. C'est très difficile de vendre un produit aussi bon qu'il soit quand en face de toi t'as des monstres comme KTM et Yamaha. Ouais. Bon, moi je leur souhaite très longue vie, la preuve qu'ils peuvent y arriver. Ils ont une moto de trial qui marche vraiment très très bien, qui est parmi les plus grosses ventes. Bon, en enduro il faudra le temps. Est-ce qu'ils auront le temps
Est-ce que les banquiers vont leur laisser
le courage de persévérer? Mais bon, le produit est là et le produit est bon.
C'est motorisé par
on
qui
on peut faire un par petit eux. Peu un par rapprochement eux. Avec Voxan dans la moto de route, quoi. Le produit est là et bon, mais bon, après derrière il faut le vendre, quoi.
Ce qui est un peu dommage dans l'enduro aujourd'hui, c'est qu'on voit il y a des constructeurs, bon, mis à part les Japonais bien sûr, qui au lieu comme dans les années 70, il y avait bon des gens qui achetaient un moteur et qui faisaient un cadre, bon, ils achetaient des amortisseurs. Aujourd'hui, bon, Sherco s'est lancé dans la conception, la fabrication d'un moteur. Je pense que ça a été leur tort. Ils auraient mieux fait d'acheter un moteur.
Commencer en montant un moteur d'un autre.
Voilà, et de faire tout le travail autour du cadre, et surtout de la qualité, quoi. C'est ce que je pense que les gens recherchent aujourd'hui, de la qualité. Sachant qu'une moto d'enduro neuve, surtout en 4 temps, ça vaut quand même autour de 9000 euros. Hein. Donc et pour ce qu'on en fait, c'est presque dommage, mais bon, c'est le plaisir qui est là. Et par contre, ce que fait Beta, justement, eux, ils achètent un moteur KTM et font un cadre autour.
Voilà. Ouais,
on arrive malheureusement au bout de cette émission, et comme vous l'avez compris, sur l'enduro, on pourrait en parler pendant 3 heures d'émission. J'espère qu'on vous reverra.
On reviendra.
Que vous reviendrez.
C'est normal.
Et si on veut s'équiper de la tête aux pieds, moto, motard et enduro, il faut aller.
Tu veux chez Cardi par exemple.
Non. Tu nous donnes l'adresse?
Bâtiment Hermès, zone Larieux à Toulouse.
Voilà, donc
c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Francky.
Voilà, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs.
Et merci pour
mais
ça.
Il y en a d'autres
et...
aussi sur Toulouse.
Et bon, pour les passionnés de moto, oui, et Cardi, d'enduro,
il y en a un autre.
Vous tapez,
ils sont bien aussi. Atlanta, ils sont très bien.
Vous tapez enduro sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez voir, il y a une somme de sites internet fabuleux, et il y a énormément d'informations à prendre.
C'est normal parce que c'est quand même, en nombre de licenciés, je pense, la catégorie de motard qui est la plus représentée.
Et dans la prochaine émission, alors pas mercredi prochain puisqu'on laisse la place à Sauvegarde 31, hein, cette association qui 3 fois par an vient parler un peu de social et enfant ici derrière cette antenne. Nous, on se retrouve donc dans 15 jours, même endroit, même heure. Merci à vous deux.
Merci.
J'espère à bientôt et salut à tous et bonne route.
Bye. Ooh.